renouvelables, santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratie, respect de la
vie, internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental, en cette belle semaine qui nous a fait voir les premières neiges, réjouissons-nous pendant qu'il en reste. En première partie, on commence comme d'habitude par l'essentiel revue de l'actualité en environnement. On vous parle entre autres, et oui, vous l'aurez deviné, de changement climatique, de la débine de Bennett Environnement et de la centrale nucléaire de Chantilly. Ça, c'est notre belle petite centrale nucléaire ici au Québec. Le dossier de la semaine, on va tenter de démystifier les fameux PPP, les partenariats publics-privés, avec André Boutillier, le président de la coalition Au Secours. Et on termine, comme d'habitude, par nos classiques coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Ça vient de gendre au micro pour vous divertir, mais surtout vous informer. On fait un spécial cette semaine et c'est un spécial qui va se reproduire après l'émission de la semaine passée qui était une version intimiste de notre délirium environnemental préféré. Habituellement, on est plusieurs chroniqueurs en studio. Cette semaine, deux Nicolas, Nicolas Mainville et Nicolas Milo, ont lu pour vous tous les journaux de la planète et nous en parlent. Donc, Hugo Lachapelle et Patrick Bonin seront de retour la semaine prochaine alors que nous recevrons à l'émission M. Clifford Lincoln, un homme bien important qui a fait avancer beaucoup la cause de l'environnement au Canada et au Québec. C'est un ancien ministre de l'Environnement, entre autres. C'est suffisant. Parlons politique. On va commencer la revue de la semaine cette semaine par un nouveau parti politique qui voit vert pour Montréal et nous avons nommé nul autre que
Projet Montréal.
Voilà. Alors, donc, Projet Montréal, c'est un nouveau parti politique. Il y avait une première journée d'information, de rencontre avec les futurs, peut-être, membres. Nicolas Mainville t'a cité pour nous et pour toi aussi, j'imagine, à cet événement-là. Peux-tu nous en parler un peu?
En fait, c'était l'assemblée de fondation du parti. Il était officieusement actif depuis juin, mais il a été lancé officiellement ce dimanche au Centre Saint-Pierre sur Panay. Et puis, c'est ça, l'idée, c'était vraiment le baptême public, de lancer l'idée de Projet Montréal. Projet Montréal qui est dirigé par Richard Bergeron, que vous avez probablement entendu ici à l'émission. En fait, on l'a eu deux fois à l'émission. Richard Bergeron, qui est analyste stratégique à l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport de Montréal, et qui lutte depuis longtemps pour l'amélioration des services de transport en commun, pour l'avancement de la durabilité du transport ici à Montréal.
C'est lui, entre autres, qui avait publié, on l'avait reçu à cet effet, le livre noir de l'automobile.
Oui, tout à fait.
Il a publié ça, mais également l'économie de l'automobile.
De l'automobile au Québec, exactement. Merci. Qui sortait des chiffres assez accablants sur justement la dépendance de la société québécoise envers l'automobile et de l'influence qu'a le pétrole sur notre économie et l'automobile par billet, évidemment. Donc, un projet extrêmement intéressant selon moi pour avoir assisté à cette fondation. Plusieurs idées extrêmement constructives. On parle vraiment d'un projet politique vert. On s'affiche comme étant vert puisqu'on veut concrétiser les idées du développement durable. En fait, sortir des tablettes tous ces rapports qui ont été créés durant les dernières années, qui avaient écrit développement durable un peu partout, et les mettre au concret.
Oui, ben on se souvient que quand il était venu plus tôt cet automne, il nous avait dit qu'il était, dans le fond, fatigué de travailler, puis de travailler un peu pour rien, parce que ses idées n'étaient pas poussées, et que si le politique ne bougeait pas, eh bien, devenons le politique. Je pense qu'il avait dit ça clairement.
Exactement. Texto, oui.
Je pense que c'est vraiment ça qui a motivé. Puis c'est des gens qui se retrouvent à la tête de Projet Montréal, des gens qui ne sont pas des politiciens à la base. Puis c'est intéressant de voir, justement, l'outil politique est utilisée pour faire avancer les idées.
Donc, quelles sont ces idées qui mettent de l'avant, justement, peut-être en souligner quelques-unes?
La plateforme centrale est vraiment basée sur le transport durable. Donc, je pense que le projet qui frappe le plus en ce moment, c'est la promotion du nouveau tramway. Monsieur Bergeron est vraiment calé dans la matière. Il a tout étudié. Il connaît bien ses chiffres. Il a déjà analysé différents scénarios d'établissement du nouveau tramway à Montréal.
Entre autres choses, on a beaucoup critiqué les coûts de l'implantation du métro à Laval. J'imagine que les coûts d'implantation pour un tramway, excusez-moi, sont beaucoup moindres puisque les transformations sont moindres.
En fait, le coût du tramway est relativement élevé et puis on l'avoue au sein de Projet Montréal, c'est pas une question d'être moins cher ou plus cher, mais c'est plus une question de durabilité de l'établissement de ce type de transport-là et puis de l'accessibilité que ça aurait. Évidemment, je pense qu'on se rappelle, M. Bergeron avait publié une lettre dans Le Devoir il y a environ un mois justement sur les coûts du métro et puis je pense que le principal point, c'est de dire, écoutez, c'est vrai que ça coûte cher de faire du transport en commun, mais évidemment, les retombées retombées sont extrêmement intéressantes, autant au point de vue santé publique que santé environnementale.
Donc, l'idée du tramway, c'est une des idées qui est mise de l'avant?
Tramway et développement du transport en commun, accessibilité gratuite au centre-ville, développement vraiment poussé à fond sur la place de l'humain en ville. Donc, vraiment mettre l'humain au-dessus de tout, au lieu de mettre l'automobile comme elle l'est en ce moment. Évidemment, le projet Montréal vise à être un projet constructif et non pas dénonciateur. Les automobiles, on ne veut pas être un parti anti-char, mais bien un parti pro-transport en commun. On a aussi plusieurs autres plateformes, notamment sur les logements sociaux, sur la lutte à la pauvreté, sur l'accessibilité à différents services. Donc, un projet qui est en construction. Le programme est en train de s'écrire. Et puis,
donc, c'est le moment de participer.
Exactement. Puis d'ici avril, on va décider les différents candidats pour chaque circonscription, chaque arrondissement. Et puis, il va y avoir une course pour la chefferie et la mairie.
Ben, merci beaucoup, Nicolas Mainville, d'avoir assisté à tout ça pour nous. Je vous rappelle qu'on vous parlait du nouveau parti politique à Montréal qui vient tout juste de naître, qui s'appelle Projet Montréal, à la tête duquel se trouve M. Richard Bergeron. Il dit aspirer à un Montréal autre, plus vert, équitable et durable. Je le lis ici dans Le Devoir. Il y avait un article dans le Devoir, donc du lundi 8 novembre. À la question, est-ce que c'est un projet utopiste, M. Bergeron affirmait, si on compare à la niaiserie qui nous tient lieu de gouvernance, peut-être que ça a l'air utopiste. Le projet est osé et ambitieux, mais il se situe dans la bonne moyenne de ce qu'on voit dans les villes européennes de taille comparable. Le problème ici, c'est que tout le monde parle de développement durable, mais que personne n'a le courage d'agir.
Donc, si vous voulez plus d'informations, www.projetmontréal.org.
Et bien sûr, ce sera sur notre site. Vous écoutez toujours, ou vous venez peut-être juste de s'intoniser, Delirium Environnemental, le magazine d'actualité en environnement. Nous, ça fait déjà 2 ans qu'on s'inquiète et on se préoccupe, et beaucoup plus que 2 ans, mais ça fait 2 ans qu'on vous en parle à chaque semaine avec beaucoup de plaisir. On est dans la partie revue de l'actualité. Il semble que les médias, vraiment, ces 6 derniers mois, se sont réveillés. Mais encore une fois, on l'avait scoopé. Nicolas Mainville nous en avait parlé la semaine dernière. Cette étude importante qui est sortie et qui fait que la presse en fait sa couverture dans le mardi 9 novembre, ainsi que ses 2 premières pages. Donc, l'article fond à la vitesse grand V. Bon, on n'est pas surpris puisqu'on vous avait parlé de l'étude, nous, la semaine passée. Mais quand même, grâce à Nicolas Mainville, dois-je le redire. Donc, messieurs, peut-être Nicolas Mainville poursuit sur la lancée que tu avais très bien commencé la semaine dernière.
Mm-hmm. Ben, en fait, c'est un gros rapport. Merci, on est vraiment fort sur les scoops.
C'est
une grosse étude, disons-le. Encore une fois, 300 chercheurs qui se sont associés, 8 pays, pour étudier les impacts des changements climatiques dans l'Arctique. On parle d'une association qui s'appelle le Arctic Climate Impact Assessment, donc grosse étude, et puis qui nous sort différents impacts des changements climatiques. Et c'est ce que les grands médias de masse sortent aujourd'hui à grandeur de la planète. Allez voir sur tous les sites internet, tout le monde parle de l'article qu'ils font. Eh bien, c'est pas la première étude qui sort, mais c'est bon, ça. On a un tapage médiatique, faut qu'on va en profiter.
Oui, on va en profiter, mais est-ce que je peux me permettre un commentaire totalement, peut-être frivole, c'est vrai, ça nous montre vraiment l'incompatibilité entre comment les médias fonctionnent et comment la science fonctionne. Il a fallu qu'il y ait un autre rapport d'étude avec 300 chercheurs. C'est pas le premier, c'est pas la première fois qu'il y avait des grandes études qui parlaient des changements climatiques, mais on dirait que celui-là a eu particulièrement d'impact, entre autres peut-être parce qu'il y avait des images.
Peut-être, mais c'est surtout qu'on la catégorise, cette étude, de la plus détaillée sur le sujet. Donc c'est peut-être ça qui fait en sorte que tout le monde en parle. Peut-être que rappeler directement les différents points qui sont amenés par cette étude-là. Premièrement, on parle d'une réduction, évidemment, de la taille de la banquise en Arctique, puisqu'on parle de l'Arctique qu'ils font. On parle d'une diminution de 8%, ce qui équivaut à 2 fois la France en superficie. C'est non négligeable, évidemment. Avec aussi des hausses de température. On a dénoté des hausses de température durant les 40 dernières années. En fait, on estime environ 2,8 degrés d'augmentation dans certaines régions, en Alaska et en Sibérie. Et puis, avec ces augmentations-là, durant les dernières 50 ans, en fait, on estime une augmentation jusqu'à 7 à 10 degrés dans les mêmes régions. Donc, avec les chiffres qu'on a accumulés, on est capable de faire des prédictions. Ce que dénote cette étude-là en même temps, montée des eaux, augmentation des eaux un peu partout sur la planète, et puis on estime que l'Arctique pourrait disparaître d'ici 100 ans, et même moins que ça.
On voit d'ailleurs dans la presse de mardi, le 10 novembre, une image très claire qui montre l'Arctique en 10 ans, la transformation qui a subi la fonte de la banquise et des glaces, donc de 1992 à 2002. C'est un peu plus clair, donc le couvert de glace est en perte totale, ils font.
Exactement, c'est une fonte accélérée, puis évidemment, on dénote que l'Arctique est la région du globe qui est la plus susceptible au changement climatique, et c'est là qu'on observe les changements les plus drastiques et les plus rapides. Parmi ces changements-là, parmi ces impacts-là, évidemment, les espèces qui vivent là-bas, on parle de perte de biodiversité, avec en tête d'affiche l'ours polaire, qui est une espèce qui dépend de la banquise pour chasser. Vous savez qu'il va chasser les jeunes phoques sur la banquise. Donc, si on estime que la banquise disparaît d'ici 100 ans, ben il y aura carrément plus de territoire de chasse durant l'été, ce qui est évidemment extrêmement important.
On l'avait très bien vu dans le film Mission Arctique, justement, d'où le titre Mission Arctique, où est-ce qu'on montrait justement comment les territoires de chasse des ours polaires avaient été absolument détruits par les changements climatiques. En fait, pas complètement détruits, mais combien justement ça changeait leurs habitudes de vie et ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à s'adapter. Ça, c'est sans parler qu'il y en a plusieurs qui sont hermaphrodites, mais nous y reviendrons.
Un autre sujet, mais bon,
voilà.
Tout est en tout. Peut-être une des choses qui est extrêmement importante à souligner, c'est l'intérêt de plus en plus marqué des États-Unis et des grands pays industrialisés à aller exploiter cette région-là, puisqu'on dénote la fonte de la glace. Il y a des nouvelles ressources halieutiques qui vont être disponibles. Il y a même des nouvelles ressources en pétrole qui sont découverts de plus en plus dans cette région-là. Et puis, c'est vraiment ironique de penser que les émissions de gaz à effet de serre sont en train de, en ce moment, provoquer la fonte de la glace dans ce coin-là, mais qu'on est capable de chercher plus de pétrole pour en brûler davantage.
Ridicule.
Ce qu'il faut absolument mentionner, c'est la fonte du pergélisol. Vous savez que le pergélisol, ce sol qui est constamment gelé, contient des quantités impressionnantes de méthane. Lorsque le méthane est émis suite à la fonte, ce méthane-là est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Donc, évidemment, c'est un effet boule de neige, une rétroaction positive qui va faire en sorte qu'il y a de plus en plus de méthane qui se retrouve dans l'atmosphère et que la glace fond de plus en plus vite. Et pendant ce temps-là, les États-Unis sont tout contents parce que la voie navigable va être plus large et plus accessible et on va commencer à pouvoir se promener entre l'Europe et l'Asie de façon plus facile parce que l'Arctique va fondre. Tout ça pour dire que c'est un très gros dossier. Je me réjouis de voir les médias en parler. Il y avait même Maisonneuve à l'écoute aujourd'hui qui en parlait, mais il faut faire attention à sauter au plafond et il faut surtout se rappeler qu'on est tous responsables de la situation du climat en ce moment.
Mais il faut aussi faire attention un peu dans la couverture médiatique qu'on nous propose ces temps-ci, ce qui est très heureux, mais en même temps, des fois regrettable, c'est voir qu'à quelque part, il n'y a aucune conséquence ou suite logique dans la façon dont on couvre la nouvelle. Radio-Canada, qui, ce mardi et ce lundi, en ont parlé beaucoup, beaucoup, et mercredi soir à RDI, vont nous proposer un documentaire sur le fait que les changements climatiques n'existent peut-être pas, parce que ceux qui les prédisent ne sont pas simplement que des prophètes de malheur. On nous propose ça en même temps dans la même semaine, et c'est pas la première fois qu'on dirait que ça peut faire ça. Je pense qu'il y a aussi une attention à porter à ces niveaux-là. On peut pas leur en vouloir de nous avoir mis ça sur la scène médiatique. Bravo, non, faites-le. Oui. Mais en même temps, je pense qu'il y a une rigueur qui va devoir se développer en environnement dans la façon de traiter la nouvelle.
Mais il y a surtout la durée. Je trouve que c'est tout à fait adéquat qu'on mette des hypothèses contradictoires de l'avant. Par contre, c'est dans la durée, parce qu'il n'y a pas de rapport qui sort. Est-ce que Radio-Canada va arrêter d'en parler? Là, c'est une autre question.
Le meilleur exemple, regarde, on a deux autres nouvelles par rapport au changement climatique qu'on n'entend pas parler dans les médias, qu'on est allé chercher dans les médias un peu plus indépendants, moi puis Nicolas. Peut-être qu'on peut présenter ces rapports-là puis montrer à quel point les changements climatiques vont affecter notre vie tous les jours de plus en plus.
Oui, si vous voulez, on va s'arrêter. Ça fait longtemps qu'on jase, mais on revient tout de suite avec plus de changements climatiques. Vous écoutez toujours Delirium environnemental et on est toujours dans la revue de l'actualité, revue de presse. Un beau chapeau pour commencer à M. Charles Côté qui a fait une série d'articles fort intéressants sur ce rapport duquel on vous parlait, nous, déjà la semaine passée, qui sera disponible via notre site Internet que vous pouvez toujours trouver au www.radiotelirium.net parce que Delirium environnemental, c'est une émission de radio, c'est un site Internet et c'est également une cyberlettre qu'on vous envoie chaque semaine si vous le voulez. Donc, pour vous y inscrire, pour qu'on vous l'envoie directement dans votre boîte de courriel, vous avez qu'à venir nous voir sur le site et on le fera avec plaisir. On poursuit sur la lancée des changements climatiques. C'est dans l'air, semble-t-il. Donc, parlons-en donc. Nous, ça fait quand même longtemps qu'on en jase. Mais continuons donc. Il y a plusieurs choses qui ont beaucoup d'influence sur les changements climatiques. Et il y a des boucles, qu'est-ce qui cause quoi, qui commencent à être assez intéressantes d'observer. Semble-t-il que les feux de forêt seraient dus ou causeraient des changements climatiques? Nicolas Milo.
Bien, c'est-à-dire que, naturellement, depuis les dernières années où est-ce qu'on s'intéresse davantage à ces liens-là entre des phénomènes naturels et un phénomène global comme celui des changements climatiques.
Depuis qu'il y a de l'argent qui est investi.
Depuis qu'il y a de l'argent investi.
Voilà, comme c'est bien.
Eh bien, on a la pensée suivante, c'est-à-dire que les feux de forêt participent à l'augmentation des changements climatiques, mm-hmm. à l'augmentation de la température. Dans le fond, les forêts sont reconnues comme étant des puits de carbone, ils captent le carbone, ils le fixent. Quand une forêt brûle, ça libère ce carbone-là. Une grosse partie est libérée sous forme de gaz carbonique. Ça augmente l'effet de serre, la température augmente. Mais une petite étude qui est sortie, dans le fond, on vous parlait de deux études qu'on va vous parler, qui sont absolument pas médiatisées présentement, mais qui peuvent aussi, dans le fond, en déplaçant un peu la région qui nous intéresse, faire teinter plusieurs sonnettes d'alarme. En Idaho, une petite région isolée aux États-Unis, on a fait un premier
Idaho.
Test. C'est beau, l'Idaho. Ce que vous voulez dire,
Idaho.
Puis au Québec, l'Idaho.
Ah, Idaho.
Eh bien, on a analysé 8000 ans de sédiments accumulés dans le fond d'une vallée. D'habitude, c'est des expertises qu'on ne pousse pas aussi longtemps, sur une période aussi longue. Eh bien, on a analysé 8000 années d'accumulation de sédiments dans le fond d'une vallée qui s'appelle la Sword Fork Payette River, donc un beau mélange franco-anglais de noms de rivières. Et dans cette vallée-là, eh bien, on a réussi à faire, dans le fond, à étudier plusieurs périodes climatiques différentes. On sait que des années 1300 à aujourd'hui, il y a une période qui s'est appelée la petite époque glaciaire. C'est une époque où est-ce que les températures ont été relativement froides et les rivières et aussi les forêts qui les bordent ont été dans des milieux qui sont relativement humides et surtout relativement frais. Donc, quand on avait un feu de forêt, eh bien, on se rendait compte que le feu de forêt n'avait pas la chance de prendre beaucoup d'expansion. Puis, c'était un feu de forêt qui se résorbait souvent de lui-même. Et bon, on était capable de comprendre ce phénomène-là. Et depuis quelques années, on observe aux États-Unis des feux de forêt totalement gigantesques qui détruisent tout. On pense à la Californie, entre autres, qui est l'exemple le plus frappant. La même chose à Vancouver, tout près de Vancouver. Eh bien là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les sédiments que l'on observe aujourd'hui, on les a déjà observés avant 1300, donc avant cette petite période glaciaire-là.
Qu'est-ce que ça veut dire, retour vers le futur?
Peut-être. C'est intéressant d'aller voir, mais ce que ça nous dit, c'est que les dépôts de sédiments qu'on a observés, eh bien, ils nous disent que les forêts, quand la température est plus haute, mais ils brûlent plus. Donc, ce n'est plus les feux de forêt qui font uniquement augmenter l'effet de serre, c'est l'effet de serre qui va également faire augmenter le nombre de feux de forêt, leur grosseur, leur importance. Et ça vient complètement reconsidérer notre façon de voir les feux de forêt, un, dans la façon de les traiter puis de les gérer, ça c'est déjà important, mais aussi dans leur impact qu'ils auront sur les changements.
Et dans l'impact qu'on a via les changements climatiques sur leur occurrence.
C'est Guido.
Donc, de la même façon que les pergélisols ont cette boucle de rétroaction positive, bien, les feux de forêt contribuent de la même façon. Intéressant. Hein?
Très intéressant. Si vous permettez, je reviens tout de suite avec les articles de Charles Côté dans la presse. Justement, il nommait trois boucles de rétroaction reliées au changement climatique. D'abord, justement, tu parles du pergélisol qui c'était un impact qui en causait d'autres, comme tu l'as très bien dit, justement, la libération du méthane. Également, la fonte de l'Arctique va changer la fonte des glaces va modifier les courants marins, donc qui est la deuxième boucle. Et la première de laquelle il parlait, c'était le recul du couvert neigeux et de la banquise. Ces deux éléments réfléchissent le rayon de soleil. Donc, s'il n'y a plus de réflexion, on réchauffe plus l'eau et les sols. Donc, trois boucles de rétroaction, ça me semblait intéressant à mentionner. Donc, cet autre rapport duquel vous parliez, que vous avez vous-même débusqué, mais dont on parle peut-être un peu moins?
Ben oui, rapidement, c'est le Pew Center on Global Climate Change. Le Pew Center qui a fait un espèce de résumé de 40 études antérieures qui ont évalué les liens entre le climat et les espèces de plantes et en fait la biodiversité en général, donc les animaux et les plantes, aux États-Unis comme tel. Et puis ces 40 études-là, en faisant une espèce de résumé très rapide, on a remarqué que 50% de la faune et de la flore états-unienne en ce moment sont affectées par les changements climatiques, ce qui est extrêmement non négligeable. Ce qui ne se dit pas pantoute, mais tout ça pour dire extrêmement non négligeable.
Okay, en tout cas, c'est très
clair. Vous avez mon point, c'est extrêmement important comme effet, puisque on est en train de dénoter, en plus qu'on connaît très peu des interactions entre les espèces, on se rend compte que les interactions sont altérées par le climat et surtout par les modifications de période de gestation ou de période d'éclosion de des œufs ou des plantes. Parlons des plantes, par exemple. Si la période de pollinisation est, deux semaines après la fonte des neiges, par exemple, il y a plusieurs exemples devant moi, donc je vous en donnerai pas des précis. Mais tout ça pour dire qu'évidemment, les espèces entre elles dépendent autant du climat que de chaque espèce entre eux autres. Excusez-moi. Et puis,
d'où un écosystème où est-ce que toutes les composantes d'un système dépendent les unes des autres?
Exactement. Et si le printemps arrive 15 ou 18 ou 25 jours plus tôt, ce qu'on a observé durant les 50 dernières années, en fait, si on regarde les chiffres précis, on parle de 18 jours plus tôt en 1990 qu'en 1920.
On se souvient qu'il y avait une étude qui était sortie, entre autres, des espèces qui changent leur comportement, l'écureuil roux se reproduisait 20 jours plus tôt.
Exactement, mais tu parles des curés roux, on va te parler du renard roux, le renard roux qui est en train de monter dans le nord. On va dire que Safiane est rousse.
Non, pas du tout.
Et puis, le renard roux qui est en train de monter dans le nord et qui fait maintenant compétition au renard arctique, qui est moins compétitionneux, pour ne pas dire combatif, et compétitionnatif. Alors, tout ça pour dire qu'on observe ces relations-là. Ce qui, on fait des farces, mais tout ça pour dire que ce n'est non négligeable et extrêmement important, et je voulais vous le souligner aujourd'hui, et merci de m'avoir écouté.
C'était passionnant, Nicolas-Méville. Moi, j'en profite peut-être, on vient beaucoup de parler de changement climatique, on arrive à le faire en riant, parce qu'écoutez, paniquer, ça ne sert à rien, ça ne va pas rien faire avancer. J'en profite donc pour vous suggérer deux films à voir absolument, d'après moi. Le premier va être diffusé demain, c'est un documentaire, ça s'appelle À la dérive, qui explore la portée sociale du phénomène des changements climatiques. À la dérive trace un parallèle entre les réalités vécues par les habitants des deux endroits situé aux extrêmes du spectre climatique. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Ça, c'est diffusé à la Maison de la Culture Mercier au 8105 rue Hochelaga. Mercredi le 10 novembre à 19h30. Donc, à la dérive à la Maison de la Culture Mercier. L'autre film, pour ceux qui voudraient pas se déplacer, vous allez vous louer ça, je vous en conjure. Vraiment, prenez-vous une petite bière ou autre chose qui pourrait participer à votre rigolade dans une galaxie près de chez vous. OK, il faut voir ça. C'est trop drôle. Moi, j'ai tellement ri. Écoutez bien l'annonce. En 2035, la couche d'ozone a été détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et les push-push en cacane. La Terre cuit donc sur les rayons du soleil et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. Ding, ding! Vraiment, je pense que c'est un bon film québécois. L'humour est magnifique. Moi, j'ai beaucoup ri comme rarement en fait dans un film. Je me suis laissé aller à gorge déployée et je vous le recommande.
Puisqu'on est dans la plug film changement climatique précisément, faut que vous voyez la grande traversée qui nous montre justement cette équipe de scientifiques qui ont réussi à traverser la passe de l'Arctique par-dessus Terre de Baffin et tout le tralala pour se retrouver à Vancouver pendant l'hiver malgré tout. Un beau message qui montre justement les effets des changements climatiques dans l'Arctique.
Je m'approprie au pied du style in your face. Je déclarais de ma voisine qui chiale parce qu'elle est trop bête. Je déclarais de monde qui cherche le trouble. Je déclarais de travailler pour me rendre compte qu'il y a des personnes qui font le double. Qu'il y a des problèmes trop dits pour les résoudre. Je déclarais de voir combien de vies me coûtent. Et que reste casser la croûte avec une pointe. Je déclarais qu'on me regarde weird pour ma coiffure de bain. J'ai besoin de chiller. Sauf qu'à chaque fois que je check l'heure, c'est le temps qu'il faut se trouver. Je déclarais de creuser ma tombe avec la trompage 3D. Et que reste vivre dans des limites. Vive plus ça va, plus ça se complique. Mais j'attache ma tête, puis j'essaie de rester flic. J'écœurie d'être souffert sous pression. Toujours fucking pressé, pour plein fucking raison. J'suis plus dernière minute que mes lyrics, j'en suis pas fière. Parce que le track que t'écoutes, là j'lis tout des crières. Mais j'travaille tout le temps, j'ai des heures supplémentaires. Pour recevoir mes papers en entier, mais bien entière. Fuck, j'écœurie d'avoir des temps. J'veux avoir des vignes, et pousser des thin dumps. Sur une côte en sardine, ou une villa à Palerme. Venir une vie, c'est une nice maman italienne. J'veux faire partie de la crème, mais c'est pas évident. J'hésite des obstacles, mais plus remarque du bizarre. Yo, quand tu veux prendre ton temps, puis le reste va trop vite. Ah, fuck it, y'a juste trop chier. Quand tu rencontres la personne, ça fait deux mois que c'est vite. Yo, laisse faire, y'a juste trop chier. Je peux plus voir du monde qui a l'air bête. J'ai carré de cours derrière, y'a ben du monde qui sent sa tête. J'ai carré d'attendre sur des têtes. J'ai carré de dire, j'ai carré, fait que j'arrête. Fait que j'arrête, fait que j'arrête, fait que j'arrête.
On vient d'entendre dit à Delirium Environnemental. Dit, vous pouvez vous la procurer sur un disque qui s'appelle Attache ta tuque, qui est une excellente compile, un collectif québécois hip-hop engagé, pas tout le temps engagé, mais toujours bon. Ils vont être en spectacle, d'ailleurs, mademoiselle, parce que c'est une mademoiselle, Dit va être en spectacle vendredi au Club Soda avec les locaux locaux. Ça nous fait vraiment plaisir de leur faire de la pub. Dernière petite nouvelle concernant l'énergie ou plutôt les alternatives, Nicolas Milo?
Ben, les énergies, les changements climatiques, tout ce beau monde-là, on reproche à nos chers gouvernements de pas tout le temps faire ce qu'ils devraient faire, bref, de tout le temps pas faire ce qu'ils devraient faire. Eh bien, une belle nouvelle au moins dans ce milieu-là, le consortium Uranos, qui est un consortium québécois qui est subventionné par plusieurs ministères, donc pour faire de la recherche sur les changements climatiques, les impacts et les adaptations potentielles, eh bien, Québec vient de leur accorder 14,2 millions. Ça fait du bien, c'est rare qu'on entend ce genre de nouvelles-là, c'est juste plate que ce soit pas le ministre de l'Environnement qui a fait la nouvelle, non, c'est son collègue de la Sécurité publique, Jacques Chagnon, qui a fait la nouvelle hier. Malheureusement, Mulcair t'en a manqué une belle. Donc, le Québec qui investit ça dans la recherche, donc aux adaptations aux impacts des changements climatiques. On sait qu'il y a beaucoup de recherches faites, entre autres, sur le Grand Nord québécois, la fonte du Pervigilisol qui, dans le fond, sort les villages inuits du Nord québécois, la banquise qui est en train de fondre, et également toute la question des pluies dans les réservoirs pour l'hydroélectricité. On sait que c'est quand même important pour notre beau pays qu'est le Québec. Excusez-moi.
Donc, si vous voulez une job, allez voir le Centre Uranos, s'il vient de recevoir 14 millions. Non, c'est pas vrai. Hey, je vais vous plugger une petite nouvelle rapide, puisque ici, le statu quo semble encore de mise au Québec, point de vue énergie alternative. C'est vrai qu'on sort quelques nouvelles intéressantes une fois par-ci par-là. Mais bon, il y a l'Espagne qui se lance dans la course au solaire. On n'entend pas beaucoup parler du solaire, hein. C'est plus de l'éolien de ce temps-ci. Eh bien, M. Zapatero, qui est le nouveau premier ministre, qui dit qu'il veut multiplier par 10 la superficie d'écran de panneaux solaires d'ici 2010 en Espagne. En fait, un plan qui est en train de développer pour rentrer dans l'ère Kyoto et pour évidemment réduire les émissions de gaz à effet de serre. On s'est rendu compte qu'en Espagne, qui est le pays le plus solaire de l'Europe, si on avait 3 millions de maisons qui installaient des panneaux solaires sur leurs maisons, on parle d'une économie de 250 millions d'euros directement dans les poches du gouvernement. Extrêmement intéressant. Et nous levons notre chapeau à M. Zapatero.